Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Je vous propose, en cette première soirée de la semaine, de démarrer avec vous la lecture d'un roman de Roger Vercel, Capitaine Conan. Ce roman qui a obtenu le prix Goncourt en 1934 nous transporte dans la guerre 14-18 et a été remis un petit peu au goût du jour par le film qu'on avait tiré à l'époque, il y a déjà quelques années, Bertrand Tavernier. Donc voilà, Capitaine Conan. En somme, on n'est bien que couché. À condition de ne jamais remuer, de s'être empaqueté avec les deux couvertures, d'avoir enfilé l'une sur l'autre 5 paires de chaussettes, de s'être calé les reins avec ses souliers afin de pouvoir les remettre, le moment venu, on est bien. Je lis un livre. Toutes les 10 pages, j'arrête ma lecture. J'arrache ces 10 feuillets, je les tords et j'allume. Cela fait pendant quelques secondes une chaleur de four qui tombe tout de suite, mais permet quand même d'arriver au bout des 10 pages suivantes. L'ennui, c'est que la neige qui s'écroule des arbres a cintré mon toit de façon inquiétante. Ces 2 versants se rejoignent presque, et dès que je lève la tête, je cogne dedans. Ces coups de tête vont finir par rendre ça inhabitable. Une toile de tente mouillée, c'est plus irritable qu'une peau fine. Vous y touchez du bout de doigt, à cet endroit-là, elle se traverse et fait gouttière. Il pleut dans mon oreille gauche, sur mon nez, sur mon livre, et toujours exactement au même point. Cela finit par exaspérer. J'ai cependant bien fait de changer de place. La nuit dernière, je me suis réveillé parce que j'avais vraiment plus froid que d'habitude. Quand je me suis assis, cela a fait flouc. J'étais assis dans le Danube. Il avait monté doucement depuis le soir et comme ma tante était la première du côté du fleuve. Ici, dans la forêt marécageuse, sous l'égout des arbres, avec le dégel qui commence, on finira d'ailleurs par mariner tout autant. Qu'est-ce que c'est ? Une main travaille avec ses doigts gourds l'entrée boutonnée de ma demeure. Un papier glisse dans la fente des 2 toiles. « La décision, mon lieutenant !» Toutes les branches de la forêt ont pleuré dessus au passage. Ce n'est plus qu'un entrelac de ruisseaux violets. Je lis pourtant. « Prise d'armes à 15h. » Et les détails du rassemblement. Nous sommes au 22 novembre. En 5 semaines, pendant la traversée au pas de course de la Macédoine puis de la Bulgarie, le long des 600 kilomètres de montagne, les 3/4 du régiment ont fondu. J'ai vu mes hommes un à un tomber sur les genoux. Quand ça montait sur le dos à la descente d'école, j'allais à eux, je leur disais stupidement « Eh bien, quoi ? Alors, mon vieux, ça ne va plus ?» Pas un ne répondait. Ils ne me regardaient même pas, verdis. Vidés qu'ils étaient par la dysenterie. Tout leur pauvre corps s'en était allé en eau le long de la terrible route. Ce n'était plus que des sacs d'os, des sacs de peau terreuse. Et cette affreuse nausée qu'ils avaient tous, ce rictus de mal de mer retroussé sur leurs dents, on les traînait jusqu'au fossé et on repartait. Et les paludéens ? Ceux-là avaient bonne mine, de belles couleurs, avec leurs 41 degrés de fièvre. Seulement, quand on les doublait, on entendait sonner leurs gamelles, leurs cartouchières, leurs bidons, secoués à leur tremblement, comme dans une maison, la vaisselle lorsqu'un gros camion passe. On avait semé aussi les mulets par vingtaines, aux dernières étapes, nos misérables mulets, écorchés, gangrénés. Il fallait se mettre à 10 le matin pour battre leur viande à vif. 50 kilos sur une plaie, ça les rendait fous. Le soir, ils s'abattaient dans les pierres coupantes du chemin. Et les muletiers attendaient, l'air bien embêté, qu'ils aient fini de crever. Entre Prilep et le Danube, il en était ainsi tombé plus de 100 dans le ventre des Macédoniens qui les guettaient du haut des crêtes et les emportaient en quartier dès que la section de police était passée. Naturellement, les vivres étaient déposés dans le fossé, car on n'emportait que les caisses de cartouches et le cheval du colonel traînait une roulante quand nous sommes arrivés ici. Les 300 bons hommes qui restent pourrissent tranquillement dans le bois depuis 8 jours. Pour qu'on leur ordonne une prise d'armes, il faut tout de même qu'il y ait quelque chose de vrai dans ce que les Italiens nous ont crié la semaine dernière quand on passait dans Köstendil. Eh bien, même pour ça, on devrait nous foutre la paix. Dire qu'il va falloir se rechausser. Quand j'aurai 80 ans, que je serai perclus et bien roide, ça me coûtera sûrement moins de m'habiller. C'est comme si l'on entrait dans un bain de glace. Tout ce qu'on met est saturé de neige fondue. Je ne parviendrai jamais à réchauffer ces éponges. Dans le bois où j'arrive enfin à quatre pattes, la neige est crevée de myriades de trous, d'alvéoles profondes et serrées, ouvertes par le dégel de midi. Le ciel, entre les troncs noirs, est si sale, si jaune, que le sol blanc ne parvient plus à éclairer. À droite, le fleuve débordé entre d'autres arbres de goutrons paraît s'être dressé tendu comme une haute bande verticale, une longue toile brune qui monte jusqu'au lourd plafond des nuées et nous cerne. Tout est à ce point obscur, froid et décoloré qu'il semble que toujours il en sera de même, que nous sommes tombés au-dessous du monde dans une région de limbe où rien n'a jamais vu le soleil. Allez, debout! Prise d'armes à 3 heures. J'ai crié l'ordre à un buisson de ronces, un réseau serré de neige. Il abrite un château de cartes en toile jaune où dorment les hommes couchés tête bêche, les pieds fraternellement réchauffés par les flancs tièdes des copains. Si absurde qu'il soit cet ordre, il semble à le crier dans ce bois désert que l'on conjure un maléfice. Rester couché 8 jours dans la neige, dans la pénombre grasse de toile huilée, c'est un hivernage qui étreint durement l'esprit. On a guetté la montée du froid dans ses membres comme l'invasion d'une maladie. On a trop écouté le silence, ce grand silence mat de la neige, ce silence clos, étouffé, si différent des autres silences campagnards profonds, béants, qu'on s'en fait pour amplifier de toute la résonance de leur vide les bruits et les voix qui y tombent. Pour avoir trop longtemps regardé un pauvre vieil arbre tort, disputant une à une ses dernières feuilles au vent, on a soudain pensé que les camarades tués étaient morts, qu'on était soit devenu homme, sans avoir eu la jeunesse, que pour la 5e fois on ne serait point à la maison, au coin du feu, à Noël. Oui, crier cet ordre qui vous impose un but, une action, cet ordre qui lui est bien précis sous ce ciel vague qui prescrit une heure exacte dans ce morne flux de temps où tout se noie, crier un ordre empoisonnant qui va réveiller dans les guitounes une indignation tonique, ça vous remet d'équerre, ça vous essore le cerveau. Rien ne bouge pourtant dans le buisson de ma première section. Je sais qu'ils sont tous là. Leurs têtes font des bosses rondes dans le bas de la toile. Et vivement, hein ? J'ai empoigné le frêle poteau de la tente et je le secoue avec précaution. car je ne me consolerais pas si je le faisais péter, leur bout de bois. Un remous court dans le toit. Ils se sont tous assis du coup, très inquiets pour la bâtisse.
Ben, qu'on nous laisse au moins mettre nos grolles.
Les grolles. C'est devenu un mot, une chose tragique pour ces pauvres pieds de fantassins affreux, des pieds sans chaussettes, éraillés par le cuir des gros souliers, écorchés par tous les silex blessants de la montagne, pour les talons arrachés par des semaines de montée, les doigts écrasés, laminés par des jours et des jours d'affreuses descentes.
Les grolles.
Depuis 8 jours, on les soigne. On les réchauffe, on les masse, on les imprègne patiemment de la graisse des boîtes de singes, dans l'espoir qu'elles s'attendriront, mais chaque fois qu'il faut y pousser les pieds gonflés, meurtris, saignants. Oh, bon Dieu, je peux pas. J'y vais nu patte, moi, à leur saloperie de truc. À 2h40, ma compagnie est enfin rassemblée, une trentaine d'hommes qui en ont marre au point de ne même plus éprouver le besoin de le dire. Ces 8 jours de repos au bain-marie les ont claqués. Ils n'en finissent pas de s'aligner parce qu'ils toussent, qu'ils boitent, qu'ils grimacent de courbatures et qu'ils lâchent à chaque instant les rangs pour aller s'accroupir derrière un arbre. Les choux à vaches et les piments raflés les semaines dernières dans les champs bulgares, ces platés de dangereux légumes dont ils se sont bourrés parce que c'était vert et frais, leur ont détruit le ventre.
Tout de même, mon lieutenant, ils la salissent. Allons, par deux.
On piétine longtemps dans la neige jaune, pâteuse. On glisse, on jure. Les arbres gorgés ruissellent, des gouttes plus larges que le pouce dont on sent le choc sur ses épaules et soudain, la bise vous saute au visage et aux mains, le crivet accouru des steppes russes vous masse les cuisses et le ventre, vous mord les oreilles et les doigts, vous meurtrit les yeux comme s'il les enfonçait durement au fond du crâne.
Arme sur l'épaule, droite, pas cadencé, marche.
Crier ça. Avec des joues en bois raidies par le froid mieux que par la cocaïne du dentiste, c'est du sport. L'exécuter, c'est encore mieux. Dire que c'est fait dans un beau style et que mes gars ont une allure très martiale en débouchant dans la clairière où le colonel les regarde arriver, ce serait mentir. Il est debout, le vieux. Sur le seuil du pavillon de chasse, où l'état-major du régiment brûle toutes les planches dans la cheminée, il crie à mes sections cassées par la colique « Allons, au pas !» et « Appuyez-moi sur ces crosses !»
C'est à belle abaisse que j'ai perdu ma graisse et quelques faiblesses dans mon raisonnement. Au coin de la rue verte, chez la Montmarlette, j'ai payé mes dettes avec le prêt franc. C'est une gauche gironde, plus rouquine que blonde, qui connaît son monde et ceux de la Légion. Quand je conduis mon brel, l'arme à la bretelle, c'est elle qui m'appelle par mon petit nom. Je lui réponds, môme, sois plus économe, j'en connais mieux comme joli faridon. Des airs de jouvence, des chouettes romances, j'en ai plein la panse de mes deux bidons. De toutes les frangines, t'es la moins coquine, et dans la débine, tu connais le condé. Quand le bled immense nous met dans la danse, c'est à toi que je pense devant le PMC. Quand on fait la pause dans les lauriers roses, cause avec toi, je cause. Les souvenirs sont vifs, que veux-tu que je foute? Le passé me dégoûte, j'ai construit ma route en payant bécif. Pour un légionnaire, c'est la bonne affaire que de ne pas s'en faire. Un peu de cinéma nous rend la confiance, car à l'échéance, avec beaucoup de chance, la classe partira. Souvenir de la clique, sans métaphysique, tout cela s'explique lorsque le soldat sent l'odeur des crèches, du quartier qui sèche dans les plis d'un chèche. Retrouvé comme ça, c'est la fin des choses, la dernière pause, et la boucle est close d'un cercle parfait. C'est la fin de la danse, on change de romance. On paye, on recommence, passez la monnaie.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Capitaine Conan, Roger Vercel. Maintenant, tout le régiment est massé, l'arme aux pieds. Il y a 2 mois que je ne l'ai vu depuis une prise d'armes à Prilep et je le trouve effrayant. Un alignement de faces blêmes émaciées, des joues comme crevées, des yeux creux. Mais il y a autre chose que je ne saisis pas tout de suite. Il y a dans l'aspect de ces hommes une étrangeté que je ne parviens pas encore à préciser. Au garde à vous, sur le front de ma compagnie, je cherche, et je trouve soudain. C'est le vague de leurs vêtements qui m'a frappé. Malgré les bretelles des cartouchières qui les plaquent sur la poitrine, les capotes semblent pendre des épaules comme des porte-manteaux, et les ceinturons, lâches malgré les crans supplémentaires, s'enfoncent extraordinairement à la place du ventre. Il est mort 3 hommes ce matin dans le pavillon de chasse que l'état-major partage avec les agonisants.
Garde à vous !
Le colonel s'est avancé au centre du carré, un papier à la main.
Mes amis, j'ai à vous annoncer une grande nouvelle. Nous sommes vainqueurs. Depuis le 11 novembre, la guerre est finie sur le front français.
À vrai dire, on s'en doutait un peu, mais c'est quand même une sacrée minute. Les mois se mesurent à l'immobilité pétrifiée des hommes, tandis que le colonel hache dans les rafales les lignes du communiqué.
Au 52e mois d'une guerre sans précédent dans l'histoire,
de Krivets rabat sur le front des compagnies les bribes des phrases historiques.
L'exemple d'une sublime endurance et d'un héroïsme quotidien, tantôt attaquant elle-même et forçant la victoire.
Puis le colonel replie son papier et laisse tomber négligemment. L'armistice est entré en vigueur ce matin à 11h. Il a bien raison, le vieux, de ne pas faire un sort à cet avis qui ne nous concerne pas. Nous, on l'a eu, notre armistice. On l'a depuis bientôt 2 mois. Il a marqué pour le régiment le début de cet effrayant raid par-dessus les Balkans qui nous a jetés à bout de force dans ce bois pourri. Leur armistice, à eux, ce sera autre chose. Le Rhin, l'occupation. La bonne vie. Nous, on est et on reste armés de Salonique. C'était une injure sur le front français.
Pourtant, on a pris le 15 septembre le Sokol avec des échelles d'assaut. Le Sokol, 1383 mètres à pic. Seulement, allez donc vous en vanter. Il a un nom de produit pharmaceutique. Et ce n'est pas fini après cette lecture. Voici que les hommes regardent à gauche avec un redoublement d'intérêt. Je me détourne et j'aperçois quelque chose d'inouï qui se prépare. La musique. Ça nous épate tous infiniment plus que l'armistice, que la musique du régiment que personne n'a jamais vue ni entendue, dont on parlait comme d'une institution légendaire, que la musique du régiment existe et soit arrivée jusqu'ici alors que le drapeau, lui, a été noyé avec son mulet au passage du Vardar. Ils sont bien 12 maintenant, 12 musiciens. L'œil anxieusement fixé sur le chef de musique 12 qui approche avec précaution de leur bouche des cuivres merveilleusement bosselés. Le piston suce l'un après l'autre méthodiquement ses doigts gelés, le bugle est déjà embouché, les cymbales s'apprêtent au choc. Qu'est-ce qui va sortir de là ? « Fa, 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 si !» murmure le chef de musique. Et ça éclate. Le vent de Russie nous frappe, la forêt tout entière rebroussée file au sud de toutes ses branches sous la panique des nuages. Les arbres sinistres nous encerclent, dressés derrière les fusils. Le fleuve louche gonfle ses vagues boueuses. On oublie tout pour cette Marseillaise que le chef de musique secoue des bras et du torse. Mieux que les phrases hautaines du communiqué, les meuglements rythmés accomplissent ce miracle de redresser les têtes maigres, de repétrir les visages défaits, de galvaniser les misérables corps. Hélas ! Les pauvres gars qui soufflent, qui enfoncent les touches de leurs doigts gourds, perclus d'onglets, jouent sans carton. Ils se sont répandus au passage d'un col dans un ravin quelque part entre Vélès et Uskub. Aussi trébuchent-ils dès les premières mesures et le régiment au port d'armes écoute navré les roses affolées des trombones, les cris éperdus de la clarinette égarée. Ils lâchent un à un les musicaux, leurs instruments retombent. « Si, si, faré !» hurle le chef de musique qui hale les survivants avec des gestes de noyé. Un piston et un bugle tiennent encore. Ils s'abandonnent à mugir quand ça module. On attend. Les officiers gardent toujours l'épée droite. Le colonel jette des regards inquiets au chef de musique. Le chef de musique laisse tomber ses bras impuissants, secoue la tête. Rien à faire. Pour remettre ça avec quelques chances de succès, c'est fini. À droite, par quatre ! Et l'on s'en va sur cet échec. On s'en va sans trouver en soi le goût d'être heureux comme il le faudrait. On s'en va tête basse. Derrière la musique déshonorée. Après 52 mois, être vivant, avoir eu le bon bout et rater la joie que ça devrait nous donner. Depuis 4 ans, je m'étais juré de me saouler la gueule ce jour-là et ne même pas avoir un faillicard de pinard à se mettre dans le col. La section derrière moi approuve d'un grognement celui qui a parlé. Tous les signes extérieurs de la victoire nous sont refusés. On n'a pas eu de musique et on boira ce soir de l'eau rose, où le major fait dissoudre ses derniers comprimés de permanganate. On me frotte sur l'épaule. Alors dis donc, ils ont fini par les avoir ? Ce « il » prouve à quel point le lieutenant Conan se désintéresse de cet armistice supplémentaire. C'est un petit breton, Un malouin râblé, à épaules larges avec de gros bras durs et une tête ronde, un visage qui semble avoir été repoussé du dedans par une boule, des joues rouges et luisantes, de ces joues de gosse rubicondes qui font s'extasier les Parisiennes quand elles les rencontrent, barbouillées de crasse et de beurre dans une cour de ferme au bord des routes. Il a gardé le béret, l'uniforme bleu marine, la fourragère rouge des chasseurs à pied, son corps d'origine. 5 étoiles et 3 palmes se touchent sur le ruban trop court de sa croix de guerre. Légion d'honneur. Lors de son arrivée en Orient, en janvier 17, la Ford qui le conduisait d'Itéa à Bralo s'était rangée à droite, dans un col du Parnasse, cédant respectueusement la gauche, côté abîme, à une autre Ford à fanion tricolore. Un général en était descendu, notre général, qui, laissant son conducteur raser seul le bord du ravin, avait tenu à saluer, dès leur arrivée, les officiers qu'on lui envoyait de France. Il était tombé en arrêt devant cette croix de guerre si chargée et tellement inattendue sur ce garçon poupin, somnolent. Il lui avait demandé son âge. « Classe 13 !» Ces citations. « Je ne les ai pas sur moi, mon général, » avait répondu Conan, « mais ça va chercher dans les 52 boches esquintées en 18 coups de main. » Alors le général s'était exclamé tout attendri, car c'était un excellent homme. « C'est magnifique ! 23 ans et une constellation pareille sur sa croix de guerre. Je voudrais que vous soyez mon fils, jeune héros !» Quand Conan, dans les popotes de Monastir, avec son accent traînard, rapportait ce dialogue qu'on le soupçonnait d'avoir embelli, tous guettaient ce « jeune héros !» qui s'achevait en un gloussement, car le narrateur, à ce moment de son récit, n'était jamais maître de sa joie. Il avait gagné, palmes et étoiles, à commander un groupe franc. Ceux qui le connaissaient assuraient que ce gars placide, qu'on imaginait si bien devant une bolée avec ses sabots et un petit chapeau rond, à ruban, exécutait des coups de main d'une audace terrifiante, et que ces 50 terribles types lui obéissaient mieux qu'au bon Dieu. Lui parlait rarement de sa guerre. C'était encore le plus chic des copains. Il donnait tout, sauf sa montre, prise à un officier bulgare. Il marche maintenant près de moi dans le sentier vaseux glissant et il hausse les épaules. Nous, on le savait depuis hier au corps franc. Il n'y a plus de groupe franc à la division depuis l'armistice, le vrai, l'armistice de Salonique. Le groupe franc de Conan est devenu la première compagnie de mitrailleuses du 50e, mais Conan continue et continuera de dire le groupe franc. Il réfléchit quelques instants et de sa voix musarde collant aux mots comme ses semelles au cambouis du chemin. C'est fini pour eux, mais pas pour nous. Il y a des infirmes qui croient qu'on va les emmener à la gare dimanche prochain avec la musique. Au souvenir de la musique, il pouffe drôlement, puis prédit « Toi et moi, de la classe qu'on est, on n'a pas fini d'en baver dans des blettes comme celui-là. Chiche que dans un an, on sera encore par ici à rafraîchir. » Il a donc juré de me désespérer. « Rappelle-toi, me dit-il entre deux bouffées de pipe, quand toi et moi on est partis, on disait « au moins, on ne les fera pas nos 3 ans ». Eh bien, on bouclera la 5e année, mon vieux. C'est extraordinaire, mais j'ai l'impression que cette perspective ne lui est pas absolument désagréable. Voilà donc pour ce soir le début de ce roman de Roger Vercel, Capitaine Conan, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.